en méditant sur ce que j'ai travaillé pour vous donner, j'ai vraiment compris que la bénédiction du Seigneur, elle est à nous. Et je voudrais vraiment partager cela avec vous ce matin. Alors, on peut se poser la question, mais Thierry, tu parles de bénédiction ce matin, on est le dimanche de Pâques, il vaudrait mieux parler de la résurrection. Vous allez voir que la bénédiction a un lien tout étroit avec la mort de Jésus à la croix et avec la résurrection. Donc, parfois dans l'Église, on se pose la question, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que c'est les miracles ou est-ce que c'est la bénédiction? On aime bien les miracles parce que les miracles, ça nous parle du sensationnel, ça nous parle de l'intervention divine de Dieu dans un domaine bien précis. On voit sa puissance, on voit sa gloire manifestée et on a tendance à négliger la bénédiction. Alors, je vous propose ce matin de voir d'abord les caractéristiques du miracle. Alors, le miracle, c'est une intervention divine, donc une intervention de Dieu dans le cours de la nature. Donc, le miracle est une intervention de Dieu dans le cours de la nature. Deuxième caractéristique, c'est que ce miracle ne respecte pas les lois naturelles. Si vous avez déjà vu une jambe repoussée sur un membre trop court, c'est pas dans le cours de la nature. Surtout quand vous la voyez pousser. Donc ça, c'est un miracle, c'est une intervention divine dans le cours de la nature et ça ne respecte pas les lois naturelles. Si on prend l'exemple, par exemple, des Israélites qui étaient dans le désert, c'était un miracle que tous les jours, des milliers de cailles viennent tomber à leurs pieds pour leur donner de la nourriture. Qu'il y ait un coup de vent un jour et que par miracle, des cailles se trouvent au-dessus du camp et tombent pour s'écraser par terre, ça, on peut dire, mais tous les jours, pendant 40 ans, c'est un miracle qui s'est reproduit régulièrement. Donc, troisième caractéristique, c'est une provision de Dieu, le miracle. C'est une provision de Dieu, mais uniquement pour répondre à un besoin bien précis. Le miracle, c'est une provision de Dieu, mais uniquement pour répondre à un besoin bien précis. Comprenez ? C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai besoin de 50 000 euros, si je prie et que Dieu me donne 50 000 euros, c'est un miracle qui pourvoit à ma provision du jour ou de la semaine ou du temps dans lequel je vis. C'est une provision donc de Dieu qui répond à un besoin bien précis. Donc, le miracle ne me parle pas d'abondance. C'est important ça. Le miracle ne me parle jamais d'abondance, même si c'est 50 000, 60 000, 80 000 ou 200 000 ou 1 million d'euros. C'est une provision de Dieu pour un moment bien précis. Donc Dieu répond, défie les lois naturelles pour répondre à un de mes besoins bien précis du moment. Donc on peut dire que, quatrième caractéristique, le miracle se produit en temps de crise. Un miracle se produit en temps de crise. Je suis malade, je souffre, j'ai besoin d'une guérison, Dieu intervient, je suis en crise, je suis malade, donc Dieu intervient, Dieu me guérit par un miracle et je suis guéri. Dieu, j'ai des besoins financiers, je crie au Seigneur, le Seigneur répond, me donne ce dont j'ai besoin, c'est une provision de Dieu qui répond à un besoin bien précis dans le temps. Et mes amis, il y a certains chrétiens qui courent de miracle en miracle. Il y a des chrétiens, ils passent leur temps à réclamer des miracles à Dieu, alors que le fonctionnement du chrétien devrait être d'entrer dans une vie dans le flot de la bénédiction. Parce que les chrétiens qui vivent de miracle en miracle, ce sont des chrétiens qui passent de conférence en conférence, espérant toujours que Dieu va les toucher, Dieu va les guérir, ou Dieu va les faire ceci et cela à tel moment, mais ils n'ont pas compris qu'ils ont la responsabilité d'entrer dans le flot de la guérison, qui est totalement différent. Et ces chrétiens qui passent de conférence en conférence, ce sont des chrétiens qui vivent de crise en crise. Généralement, ce ne sont pas des chrétiens très établis dans la foi. Ce sont des chrétiens immatures qui ont besoin toujours du sensationnel de Dieu pour pouvoir être boostés. Alors, quand vous vivez des grandes rencontres, des conférences, on en a fait beaucoup, vous êtes portés sur le moment, c'est génial, c'est extraordinaire, et puis vous rentrez chez vous, alors là, on revient, on est à l'ouest. Hein, on se dit, mais où est-ce que j'étais pendant 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était génial. Et en fait, c'est dommage parce qu'on est des chrétiens, enfin, ce genre de chrétien a tendance à vivre en montagne russe. C'est-à-dire que, hop, je vis les miracles de Dieu, et boum, je suis au troisième sous-sol, et hop, et c'est terrible de vivre une vie chrétienne comme ça. Dieu veut nous amener dans une stabilité au niveau de notre vie chrétienne. Donc, le miracle est donné en attendant d'avoir compris que la bénédiction nous appartient. Et là, c'est important, mes amis. J'ai rien contre les miracles. Rien du tout, et je m'attends à ce qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges. Mais, mes amis, je suis convaincu dans mon cœur, et selon ce que les Écritures disent, que les miracles sont principalement destinés aux non-croyants. Ils sont principalement destinés aux non-croyants pour les toucher, parce que les miracles ont besoin d'accompagner la prédication de la parole de Dieu. Et c'est quand les non-croyants vont entendre la parole prêchée et les miracles qui vont suivre, qu'ils se tournent vers le Seigneur. Mais nous, chrétiens, je ne dis pas que Dieu, dans sa bonté, ne nous donne pas des miracles, on en a vu, mais nous sommes appelés à vivre à un autre niveau de ressources et de fonctionnement. Donc, je propose de lire Deutéronome 8, versets 17 et 18, par exemple, pour commencer. Deutéronome, chapitre 8, versets 17 et 18. Dieu s'adresse donc par la bouche de Moïse au peuple d'Israël, et il leur dit: ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. C'est le Seigneur qui nous donne les forces, les capacités pour atteindre cette prospérité. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité, et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Le Seigneur est celui qui donne la force, qui donne les capacités pour atteindre la prospérité. Alors, comment vaut-il mieux vivre, mes amis? Est-ce qu'il vaut mieux vivre à coup de miracle ou à coup de bénédiction? On va voir. Vous avez compris, d'après ce que j'ai déjà dit, qu'il vaut mieux qu'en tant que chrétien, nous vivions à coup de bénédiction. Et je ne dirais même pas à coup, qu'on vive pleinement dans la bénédiction. Alors, les caractéristiques de la bénédiction, c'est quoi? Tout d'abord, la bénédiction, elle respecte les lois naturelles. Par exemple, celle de semer et récolter. Si je sème, je récolte. Si je sème peu, je récolte peu. Si je sème beaucoup, je récolte beaucoup. Donc la bénédiction va toujours respecter les lois naturelles, de semer et récolter par exemple. Si je sème peu dans le royaume de Dieu, sur le plan financier, je ne vais pas m'attendre à ce que je prospère sur le plan financier parce que je recevrai peu, si je sème peu. Un agriculteur, quand il sème largement parce qu'il s'attend à voir une grande récolte. Et il veut une grande récolte. Deuxième caractéristique de la bénédiction, c'est qu'elle parle d'abondance, mes amis. Le miracle ne parle jamais d'abondance. Il parle toujours d'une provision de Dieu pour un besoin bien précis. Mais la bénédiction, elle, parle de l'abondance. Parce que quand on est entré dans le système de l'abondance selon le cœur de Dieu, eh bien c'est un système de prospérité qui s'installe de plus en plus dans nos vies. Lisez 2 Corinthiens chapitre 9. Vous verrez que c'est un chapitre qui parle des offrandes. Et qui ne parle pas de la dîme, qui parle des offrandes. Et ces offrandes, Paul dit, vous semez et vous récoltez. Vous semez et vous récoltez. Vous semez et Dieu vous donne. Et plus vous semez, plus Dieu vous donne pour que vous puissiez encore plus semer. Et c'est une sorte de spirale qui s'installe petit à petit dans nos vies et qui nous fait grandir. Donc la caractéristique principale d'une vie chrétienne devrait être une bénédiction qui va en grandissant, en grandissant, en grandissant. On aimerait bien dans notre vie chrétienne que le miracle fasse qu'on passe d'un point 0 à un point 100 en l'espace de quelques minutes. Je passe d'un point où je suis pauvre à un point où je suis riche en l'espace de 2 secondes. Mais vous savez, quand on voit ceux qui ont gagné au loto ou dans des jeux comme ça, généralement, ce sont des gens qui perdent tout leur argent en très peu de temps. Pourtant, ils ont été bénis. Ils ont été bénis avec des sommes d'argent parfois faramineuses, mais l'argent part très vite. Et du coup, ils sont souvent au même état, ou même pire que ce qu'ils étaient avant d'avoir gagné au loto. Pourquoi ? C'était peut-être un miracle, mais ils l'ont gaspillé. La bénédiction, c'est une capacité que Dieu nous donne à prospérer dans notre vie à tous les niveaux. Elle nous parle donc d'abondance. Troisième caractéristique, c'est que la bénédiction se parle, mes amis. La bénédiction se parle. Bénédiction, béné, en latin, c'est bien, et dictum. dictus, dicere, c'est dire. Donc je parle ce qui est bien, je parle ce qui est bon. Et je suis surpris de voir combien des chrétiens passent leur temps à confesser des choses négatives dans leur vie. Ils constamment, à longueur de journée, ils confessent des choses négatives. Et je suis nul. Et puis je suis malade. Et j'ai mal. Et j'ai. Et on confesse que des choses négatives. Ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Les Écritures nous disent confesse la parole de Dieu. Donc, on va y revenir plus tard. Bénédiction, c'est dire le bien, dire du bien dans nos vies. La quatrième caractéristique, c'est que la bénédiction, elle est irréversible. Elle est irrévocable. Quand Dieu envoie sa bénédiction, personne ne peut l'arrêter. Et rien ne peut l'arrêter. Sur quoi je m'appuie? Sur Jacob, qui a reçu la bénédiction à la place de son frère Ésaü. Et quand son frère s'en est rendu compte, il a essayé de reprendre, que son père le bénisse. Et son père lui a dit, non, c'est trop tard. J'ai donné ma bénédiction à Jacob et tant pis pour toi. Bon, ça, c'est moi qui dis ça. Mais c'était trop tard. La bénédiction avait été donnée à Jacob et Ésaü ne pouvait plus en bénéficier. Je pense à l'exemple assez drôle de Balaam et Balak. Vous vous rappelez, dans Nombre chapitre 22, c'est Balak, le roi des Amoréens, qui vient attaquer le peuple d'Israël. Et puis... excusez, c'est mon téléphone. Tant pis. Le roi Balak va interpeller un prophète un peu corrompu, Balaam, et il lui dit, ce prophète-là, il aime l'argent. Alors on va lui donner un peu d'argent pour aller lui dire, écoute, tu vas venir avec moi et tu vas aller maudire le peuple d'Israël. Alors Balaam, qui effectivement aimait bien l'argent, a dit, oh, pas mal, je peux me faire un petit pactole, donc je vais monter, et il monte avec Balak. Et quand il arrive sur le sommet de la montagne, il voit tout le peuple d'Israël, pardon. Et qu'est-ce qu'il voit quand il... Alors Balak lui dit, vas-y Balaam. Et Balaam se met à prophétiser, il dit du bien. Il donne une bénédiction sur Israël. Balak lui dit, écoute, franchement, je ne t'avais pas demandé ça. Viens voir, tu n'as pas dû voir tout le peuple. Là, on va aller à un autre endroit. Et là, de là, tu vas maudire le peuple. Donc il l'amène, et puis Balaam va consulter Dieu quand même. Et puis Dieu lui dit, tu bénis. Donc il va, et deuxième bénédiction. Balak s'énerve, il lui dit, attends, quand même, c'est pas possible, je t'ai donné de l'argent et tu bénis ce peuple encore, c'est pas possible. Donc en fait, il dit, non, cette fois-ci, tu vas maudire. Et Balaam bénit le peuple d'Israël. Et il n'arrête pas de bénir, il ne fait que bénir. Donc du coup, Balak s'énerve et s'en va. Mais Dieu a béni son peuple et c'est impossible de le maudire. On va y revenir dans quelques instants. Donc la bénédiction, elle est irrévocable, elle est donnée. Et c'est important de savoir ce qui sort de notre bouche, mes amis. Parce que ce que je dis de ma bouche, ce que je confesse, c'est ce qui va se produire. Parce que la parole que je fais sortir de ma bouche, elle est créatrice. Elle est créatrice. Donc je dois faire attention à ce que je fais sortir de ma bouche, me concernant et concernant les autres. Et puis, cinquième caractéristique, la bénédiction ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des circonstances. Je vous donnerai quelques exemples après. Et sixième caractéristique, c'est qu'il faut croire que la bénédiction m'appartient. C'est par la foi que je sais que j'ai la bénédiction et que je vis en fonction de cette bénédiction. Alors, je vous propose, là j'ai donné quelques caractéristiques du miracle, de la bénédiction, et je vais vous propose de faire un parcours assez rapide, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ah, je vois déjà, il est midi moins 25. On a le temps, hein? Moi j'ai le temps. Non, je vous taquine. Ça va être très rapide, vous allez voir. Mais il est important de comprendre le plan de Dieu depuis le départ. Depuis le départ. Parce que le principe de la bénédiction, Dieu l'a voulu dès le départ pour l'homme. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 1, puisqu'on a dit qu'on allait du Genèse à l'Apocalypse, on va lire Genèse chapitre 1. Dieu dit et créa le monde. La parole est créatrice, je vous l'ai dit. Si vous sortez que avec ça ce matin, sortez avec ça. La parole est créatrice, donc je fais gaffe à ce que je fais sortir de ma bouche. Dieu a parlé et tout le monde a été créé, tout l'univers a été créé. Et au verset 26, que dit-il ? Dieu dit enfin, à la fin, j'ai bien travaillé, faisons les êtres humains qu'il nous ressemble vraiment. Là, mes amis, juste une parenthèse. Dieu ne ressemble pas à un singe. Si il a créé l'homme à son image, voilà. Faites-le. Faisons les êtres humains qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes, même des araignées, qui se meuvent au ras du sol. Qu'ils soient les maîtres. Dieu dit, faisons qu'ils soient les maîtres. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance, il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit, vous avez noté, il les bénit en leur disant. Dieu a béni en 10 ans, ayez des enfants, Christophe et Anne sont sur la bonne voie, devenez nombreux. Attendez, c'est pas fini. Peuplez la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre, etc., etc. Mais vous avez vu, la première chose que Dieu a dite à Adam et Ève, il les a bénis. Et il leur a dit quoi ? Multipliez, prospérez. Autrement dit, la bénédiction nous parle d'abondance. Il n'a pas dit, faites 1 ou 2 enfants, et puis essayez de remplir un petit peu le voisinage. Et puis bon, essayez d'un peu dépasser le jardin d'Éden. Non, peupler, multiplier, la vision de Dieu, c'est la multiplication. L'abondance me parle toujours de multiplication. Toujours, toujours, toujours. Et là, il y a des forteresses dans nos pensées de chrétiens qui doivent tomber, mes amis. Parce qu'on pense tellement petit, on pense tellement minable, on pense tellement mauvais, on pense tellement mal, qu'on ne peut pas imaginer ce qu'est la bénédiction. Et le niveau de bénédiction dans lequel Dieu veut nous conduire. En fait, Dieu a créé Adam et Ève à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il leur a aussi donné la capacité de parler pour créer, pour... Parce que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, mais si vous lisez les Écritures, vous voyez que ce jardin d'Éden était limité. Il était limité par des fleuves, et ce qui fait qu'Adam et Ève n'avaient qu'un espace qui était réduit. Enfin bon, c'était quand même assez grand, je pense. Mais c'était quand même limité. Et Dieu leur dit, multipliez, peuplez la terre. Il ne leur a pas dit peupler le jardin d'Éden. Il leur a dit peupler la terre. Autrement dit, ce que vous m'avez vu faire pour vous donner un environnement de qualité dans le jardin d'Éden, vous, par votre parole, en parlant la bénédiction, vous allez peupler et vous allez créer le jardin d'Éden, les caractéristiques du jardin d'Éden, dans le monde entier. Dieu a responsabilisé tout de suite Adam et Ève en leur disant « Moi, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et vous allez le faire au-delà des limites que je vous ai assignées pour le moment parce que la vision et l'objectif, c'est la terre. » Dites-moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans le jardin d'Éden, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On est toujours dans cette bénédiction, mes amis, et dans cet ordre de mission. Dieu n'a pas changé d'avis. Donc, notre responsabilité, c'est de parler la volonté de Dieu. C'est de parler ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, pour que les caractéristiques de l'environnement du royaume de Dieu se manifestent et se manifestent autour de moi. Quelqu'un a dit, ton monde est créé par ta parole. C'est fort, ça. Ton monde est créé par ta parole. Si tu veux que ton monde change, il va falloir que tu changes ce que tu dis. Ah ah ! Écoutez ça. Ton monde a été créé par ta parole. Si tu veux que ton monde change, il va falloir changer ce que tu dis. Qu'est-ce qui sort de ma bouche ? Et immédiatement, ce texte m'a fait penser, cette parole m'a fait penser à un verset d'Éphésiens 4, 19. Aïe, aïe, aïe. C'est la partie un peu pénible de l'histoire, mais... Éphésiens 4, 29, pardon. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Et verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Si vous allez voir dans le mot grec, qu'est-ce que c'était mauvais ? C'est le mot sarpos. Et le mot sarpos, c'est gâté, pourri. C'est un fruit qui est pourri. C'est un fruit qui est gâté. Donc vous avez déjà vu dans votre panier à fruits un fruit pourri ? Ouais, il pourrit tous les autres déjà, exact. Et puis franchement, c'est pas très ragoûtant. Donc qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie. Et il y a des chrétiens, ce qui sort de leur bouche, c'est de la pourriture à longueur de journée. Alors, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils vivent dans la pourriture après. Parce que ce qui sort de leur bouche, c'est de la pourriture. Donc la pourriture finit par s'installer autour d'eux. Dans leurs relations, dans leur environnement, dans leurs finances, dans tous les domaines, dans leur santé. Si je veux que mon monde change, il va falloir que je change ce que je dis. C'est très simple. C'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève, c'est ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Adam et Ève, ok, on sait que le péché est arrivé et qu'il a commencé à freiner tout ce processus de bénédiction qui reposait sur Adam et Ève. Et que ça a été jusqu'à un tel point que Dieu a dû détruire le monde par le déluge. Et qu'il a suscité dans cette génération Noé, qui a construit une arche pour sauver sa famille, pour repeupler la terre. Et que nous dit Genèse chapitre 9 ? Vous voyez, on progresse quand même. On est passé de Genèse 1 à 9 en l'espace de quelques minutes, là. Il y a de l'espoir pour la suite. Dieu bénit. Ah ! Dieu bénit Noé. Dieu bénit Adam. Dieu reprend, en fait, la bénédiction qu'il avait donnée à Adam et Ève. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant. Dites-moi, ça ne vous rappelle pas ? Dieu bénit Adam et Ève en leur disant. Dieu reprend les choses. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Multipliez-vous et peuplez toute la terre. Dieu n'a pas renoncé à son plan et à son projet au travers d'Adam et Ève. Même s'il a détruit toute l'humanité, il reprend à zéro avec Noé, etc., etc. Et donc, en fait, il lui parle la bénédiction. On sait ce qui s'est passé ensuite, il y a eu la tour de Babel, etc. Et puis, à un moment donné, Dieu va se dire, mais cette humanité, je la bénis, et elle n'arrive pas à demeurer dans cette bénédiction. Donc, je vais me choisir un peuple, une nation, qui va, elle, demeurer dans cette bénédiction. Donc, je choisis un homme. Genèse, chapitre 12. Trois chapitres d'un coup, dites-moi. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Ça se rapproche de peupler, multiplier quand même. Hein. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans. Voilà. À 75 ans, il a reçu la bénédiction du Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour la recevoir. Hein. Mais plus tôt, c'est mieux c'est. Donc Dieu s'adresse à Abraham, il renouvelle la bénédiction lancée sur Adam, sur Noé, et là il se dit, maintenant je vais choisir un homme, je vais le bénir, je vais faire de lui une grande, un peuple qui sera béni, et qui va démontrer ma bénédiction. Donc, Dieu met en place notre ami Abraham, et vous avez noté ce qu'il a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Quand Dieu nous bénit, c'est jamais pour garder pour nous, c'est toujours pour redonner. Parce que la bénédiction, on la reçoit mais on la redonne. On donne, on reçoit et on donne. On reçoit et on donne, et plus on donne, plus on reçoit, plus on donne, plus on reçoit, et puis après ça se termine jamais. Enfin, si, mais c'est tellement grand et tellement glorieux. Et vous savez, juste une parenthèse, c'est que la bénédiction, quand elle atteint une famille ou un foyer où le Christ n'était pas présent, eh bien, la malédiction est brisée et la bénédiction est enclenchée. Le principe de la bénédiction est enclenché et ce principe va de génération en génération. Et plus les générations vont, plus la bénédiction s'accroît. J'en fais l'expérience, Yannick en a fait l'expérience, et on voit nos filles en faire l'expérience. On voit la bénédiction s'accroître. Elles ont atteint un niveau de bénédiction que moi, je n'avais pas. Et que leurs enfants n'auront pas. Auront plus que nous avions. C'est un principe, la bénédiction est irréversible et elle va en s'accroissant sur les générations. Genèse chapitre 26. Donc Abraham, Jacob, son fils, a reçu la bénédiction aussi. Isaac, Genèse chapitre 26. On va d'abord voir Isaac. Genèse 26, versets 1 à 3. Il y eut une famine dans le pays. Vous savez, quand Dieu bénit, on peut quand même vivre des circonstances difficiles. La bénédiction ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème. Isaac était béni. Il y eut une famine dans le pays, ce n'est pas celle qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Et Guérar, mes amis, c'est dans la bande de Gaza. Juste une indication. Le Seigneur apparut à Isaac et lui dit, ne va pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne-y, donc avec la famine, je serai avec toi et je te bénirai. Dieu dit, je te bénirai même dans la famine. La bénédiction, elle sera avec toi même si tu es dans un pays de famine. Car c'est à toi et à tes descendants que je veux donner tous ces territoires. J'accomplirai ainsi la promesse que j'ai faite à ton père. Abraham, je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et je leur donnerai tous ces territoires. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce qu'Abraham a obéi à mes ordres, observé mes règles, mes commandements, mes décrets, mes lois. Isaac s'établit à Guérar. Il s'est établi où ? Dans le pays où il y avait la famine. Pourquoi il s'est installé là ? Parce qu'il savait que la bénédiction était attachée à lui et qu'il allait prospérer malgré la famine. Et lisez avec moi la suite, verset 12. Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays. Où ? À Guérar. Et qu'est-ce qu'il y avait à Guérar ? La famine. Isaac fit des semailles dans le pays, à Guérar, et il récolta 100 fois ce qu'il avait semé. Moi, je ris quand je lis une histoire pareille. C'est le temps de la famine. Il n'y a rien. Isaac va semer dans ce pays. C'est ce qu'on aurait tous fait, n'est-ce pas ? Semer dans un pays où il y a de la famine. Où il n'y a pas d'eau, en gros. Isaac sème dans ce pays-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il récolte au centuple car le Seigneur le bénissait. La bénédiction ne dépend pas des circonstances, mes amis. Si tout le monde s'écroule autour de vous, si les circonstances économiques ne vont pas, je peux vous dire que la bénédiction va nous accompagner, nous, le peuple de Dieu. Parce que la parole de bénédiction a été proclamée sur nous et elle nous appartient. Je suis en train de vous montrer que la bénédiction que Dieu a voulu et Dieu a déposée sur Adam, il l'a faite passer sur Noé, il l'a faite passer sur Abraham, il l'a faite passer sur Isaac, qui a prospéré même dans le pays de la famine, et il l'a fait passer sur Jacob, et ensuite il l'a fait passer sur Joseph. Joseph, Genèse 39 à 50, relisez toute l'histoire de Joseph. Mais vous verrez au chapitre 39, verset 3, Genèse chapitre 39, verset 3. Je vous encourage vraiment à relire tous ces textes-là, parce qu'ils sont. Vous verrez comment le plan de Dieu s'accomplit irrévocablement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Joseph est emmené par ses frères en Égypte, qui le vendent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph. C'est un petit détail dans le texte. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Tout lui réussissait, mes amis. Pourquoi ? Parce que la bénédiction qui avait été donnée à son grand-père Abraham, à son grand-père Isaac, pardon, à son père Jacob, reposait sur lui. Et la bénédiction, elle est hyper importante quand vous lisez l'histoire des Juifs, du peuple d'Israël. Il fallait qu'une bénédiction soit parlée, soit proclamée sur les personnes. Et c'était des bénédictions prophétiques, c'est-à-dire que dans la bénédiction, il y avait l'accomplissement de ce que Dieu voulait accomplir au travers de ces personnes-là. Donc, Joseph, lui, peu importe la circonstance dans laquelle il se trouvait, qui était une situation pénible aussi, quand même, être loin de ses parents, être dans une situation où il était prisonnier, et là, il prospérait. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui et parce que la bénédiction reposait sur lui. Et vous savez ce que ça a entraîné ? Verset 3, celui-ci, donc son maître, se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph. Quand la bénédiction s'attache à nous, les autres le voient. Quand la bénédiction s'attache à nos vies, ça se voit, mes amis. Ça se voit. Les autres commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui, réussi dans tout ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? La bénédiction ne dépend pas des circonstances. On peut dire. Pensez à Isaac, dans un pays de famine. Pensez à Joseph, chez Potiphar, et même après dans la prison. La bénédiction ne dépend pas des circonstances. La bénédiction, elle est là et elle est irrévocable. Alors vous allez me dire, oui, mais après ? Eh bien après, Dieu avait choisi Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tout le peuple d'Israël. Il voulait faire de ce peuple un peuple choisi, qui allait être un peuple ambassadeur de la bénédiction. Bon, on sait ce qui s'est passé. On sait qu'ils n'ont pas été fidèles, obéis, mais malgré tout, cette bénédiction, elle s'est attachée au peuple juif. Vous savez, le peuple juif aujourd'hui est un peuple qui prospère. Le peuple juif est un peuple qui prospère. Regardez qui prospère dans le monde aujourd'hui, c'est les juifs. Et nous, on est bénis dans l'église, on est un juif. Il dit qu'il est deux fois béni, puis à la fois la bénédiction d'Abraham et encore celle qui vient après. Et ça suscite la jalousie. Ça suscite la jalousie. La prospérité énerve. La prospérité suscite des jalousies. Mais la bénédiction de Dieu, elle est sur ce peuple, même si pour le moment il n'a pas rencontré Jésus comme son sauveur. Elle est là parce que Dieu a parlé et c'est comme ça. Bon. Là, j'ai fini l'Ancien Testament. Ouf. Et j'ai déjà enclenché le Nouveau, sans qu'on s'en rende compte. Vous allez me dire, Thierry, Adam, Noé, Abraham, Isaac, Joseph, le peuple juif, et moi dans l'histoire. Moi, je ne suis pas juif. Je ne vis plus du temps de ces gens-là. Est-ce que c'est valable pour moi aujourd'hui ? Si tu savais les malédictions qui ont été prononcées contre moi, si tu savais à quel point ma vie est une catastrophe, si tu savais tout ce que je suis en train d'endurer, l'Évangile est une bonne nouvelle. Donc je ne vais quand même pas vous laisser ce matin repartir chez vous sans une bonne nouvelle, puisqu'on est quand même le dimanche de Pâques et que Jésus est ressuscité. Galates. Oui, on a vite. On a sauté plein de livres de la Bible, là. Galates. Galates, chapitre 3. Ah, ça, c'est le point le plus... qui m'enthousiasme le plus. Quand j'ai compris ce texte-là et que je me suis dit, mais je ne l'avais jamais vu comme ça. Waouh ! Seigneur, ta révélation. Galates, chapitre 3, verset 13. Et on est en plein Pâques. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, quand ? Ou à la croix ? Nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit celui qui est pendu à un arbre. Le Christ nous a délivrés de la malédiction à la croix. La croix que le monde chrétien a commémorée ces derniers jours, c'est sur cette croix que Jésus a porté toutes mes malédictions et toutes tes malédictions. Parce qu'il a été fait malédiction pour toi et pour moi. Verset 14. Et là, alors, mes amis, ouvrez vos oreilles spirituelles. Il en fut ainsi, Jésus à la croix, il en fut ainsi pour que, waouh, la bénédiction promise à Abraham, c'était quoi la bénédiction promise à Abraham ? Je te bénirai, je ferai de toi un peuple nombreux, tu vas prospérer, tu vas être une source, une bénédiction, sois une source de bénédiction. Il en fut ainsi à la croix pour que la bénédiction promise par Dieu à Abraham soit accordée aux non-juifs. Applaudis Fanny, applaudis, vas-y. Ah ouais. Elle a compris. Elle a compris. C'est incroyable ce verset. Je vous disais, cette bénédiction qui passe d'Adam jusqu'au peuple d'Israël, et moi alors ? Il en fut ainsi, Jésus est mort à la croix, a été cloué pour prendre ma malédiction et pour que la bénédiction promise par Dieu à Abraham soit accordée aux non-juifs grâce à Jésus-Christ et pour que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous a été promis par Dieu. Ah ! Moi j'ai envie de danser là. La bénédiction promise par Dieu à Abraham m'est transmise à moi qui suis non-juif. C'est pas n'importe quoi. C'est le pardon des péchés, c'est tout ça, mais c'est aussi la bénédiction que Dieu a promise à Abraham. Faites un grand sourire à votre voisin et dites-lui, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni de la bénédiction d'Abraham. Vraiment. Et là, on est en plein dans le week-end de Pâques. Grâce à la mort de Jésus, grâce à sa résurrection, je suis au bénéfice de la bénédiction d'Abraham. Wouh ! On ne réalise pas, mes amis, vous ne réalisez pas ce pourquoi vous êtes en train de dire faire wouh. Mais vous allez le réaliser dans quelques jours. Parce que la bénédiction, elle est irrévocable. Parce que la bénédiction ne dépend pas des circonstances. Parce que la bénédiction s'attache à nous. Elle s'est attachée à Abraham. On n'a pas eu le temps de lire, mais Dieu est grand. Quand vous lisez Abraham, il prospérait tellement que ça suscitait des jalousies et des disputes. Déjà Lot, et en plus elle est contagieuse, son neveu Lot. Il était tellement au bénéfice de la bénédiction de son tonton qu'il y prospérait aussi, et puis lui, il n'a pas du tout compris. Il n'avait pas compris que la bénédiction ne dépendait pas des circonstances, parce qu'il a choisi la meilleure partie, la vallée du Jourdain. Abraham s'est dit, bon, qu'est-ce faire ? Moi, je prends la Samarie et le désert, mais même dans le désert, ça pousse. Donc, parce que la bénédiction est avec moi. La bénédiction est contagieuse. La bénédiction, elle est attachée à nous. Vous savez, vous avez déjà vu un... Je crois que c'est un Tintin. J'ai lu les Tintins quand j'étais petit. Il y a un moment, je ne sais plus lequel c'est, c'est qu'il y a, un bout de sparadrap qui est collé sur un... Et en fait, il se l'enlève comme ça, puis pouf, le sparadrap part. Et en fait, dans tout l'avion, ils sont en train de se secouer les doigts parce qu'il y a ce sparadrap dont personne n'arrive à se défaire. Et en fait, quand il y a une vue à un moment donné, il y a l'avion qui fait comme ça dans le ciel parce que tout le monde est en train de faire ça pour enlever... Et dans l'Église, on a le droit de faire ça parce que la bénédiction ne peut pas s'enlever de nous. On peut bouger dans tous les sens, elle ne peut pas. Elle est attachée à nous, comme ce sparadrap. C'est quand même mieux qu'un sparadrap. Hein. Elle est attachée à nous. La bénédiction d'Abraham, pour nous les non-juifs. Waouh ! C'est-à-dire que Christ a fait en sorte que légalement, par son sang, nous les non-juifs, on retrouve le droit légal qu'avaient les juifs d'hériter de la bénédiction. Oh là là. On va passer une bonne journée, je sens. Et cette bénédiction qui avait été parlée sur Adam, lisez avec moi Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 17. Certes, la mort a régné par la faute d'un seul, Adam, à cause d'un seul homme. Mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus que le péché hérité d'Adam. Par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause du Christ. Vivront et régneront. Peupler, multiplier, dominer la terre, ça vous dit rien? Ça me parle. Dieu, en Jésus, le nouvel Adam, renouvelle et inaugure la bénédiction qui s'attache à nous. Certes, la mort a régné par la faute d'un seul, à cause d'un seul homme, et par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Verset 18, « Ainsi de même que la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les hommes, de même l'œuvre juste d'un seul Jésus-Christ libère tous les hommes du jugement et les fait vivre. De même que la désobéissance d'un seul a rendu beaucoup d'hommes pécheurs, de même l'obéissance d'un seul rendra beaucoup d'hommes justes devant Dieu. » La bénédiction s'attache à nous. Et tout ce que j'ai à faire, c'est rien, c'est de croire. C'est de le croire. Est-ce que tu le crois, mon ami, ce matin, que la bénédiction d'Abraham, elle est sur toi, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Yark! Elle est à moi! I got it! Donc, Pâques est une bonne nouvelle. On va juste remonter un petit peu plus haut dans Galates, chapitre 3, et vous allez voir que c'est encore meilleur. Galates 3, verset 7. Oups. Verset 6. « C'est ainsi que l'Écriture déclare au sujet d'Abraham, « Il eut confiance en Dieu, il crut, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » Vous devez donc comprendre que ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. L'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs justes devant lui à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira toutes les nations de la terre au travers de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9. Abraham a cru. Abraham a cru que Dieu, quand Dieu lui disait « Je te bénirai ». Et il fut béni. Abraham a cru et il fut béni. Il n'est pas dit qu'Abraham fut béni. Il a dit Abraham a cru quand Dieu lui a dit « Je te bénirai ». Et il fut béni. Donc la bénédiction, elle est attachée à moi, c'est vrai, mais elle va se manifester, elle va se déverser dans ma vie dans la mesure où je crois qu'elle est à moi et dans la mesure où je confesse cette bénédiction, où je la parle, où je la déclare dans ma vie, où je la dis. Parce que c'est la parole de la foi que nous confessons en tant que chrétiens. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, dit Paul. J'ai cru, c'est vrai, on peut croire, mais c'est pourquoi je parle. Donc ce que je crois, je vais le parler. Il fut un temps, il y a quelques années, j'avais été conduit par le Saint-Esprit. Et je ne sais pas, c'est lui qui m'en avait convaincu. Et tous les jours, je disais bénédiction, 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 abondance, 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 prospérité, 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 bonne santé, bonne santé, bonne santé, et je confessais la volonté de Dieu pour ma vie. Et je peux vous dire que, mes amis, ça a duré un mois, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté après d'ailleurs, ça a duré un mois, mais pendant ce mois, on a vu de l'argent arriver, on a vu des bénédictions incroyables se manifester dans nos vies. Et moi, j'en étais un peu étonné. Je me disais, mais tiens, dis donc, c'est curieux. Durant cette période-là, on a vraiment des gens qui nous font des dons, c'est en dehors des... Et puis, après, Dieu m'a dit, tu vois ce que tu confesses de ta bouche? J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Et là, j'ai commencé, j'ai dit, mais Seigneur, je dois parler. Je dois parler que je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Je suis béni. C'est pas vous serez béni. Je suis béni dans les lieux célestes en Christ. Ben, c'est pas que dans les lieux célestes. Parce que ce qui est dans les lieux célestes, en fait, doit être acheminé sur la terre. Votre bon travail, il est stocké dans le ciel. Mais si vous ne l'appelez pas, il ne descendra pas. La guérison, elle est dans votre esprit. Si vous ne l'appelez pas à se manifester dans votre corps, elle va y rester. Et votre corps sera toujours malade. Appelez les choses à l'existence comme si elles étaient. Et c'est la foi qui nous permet de faire ceci. Et verset 9 de Galates 3, ça c'est le pompon du pompon. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis comme il l'a été. Qui ? Abraham. Tous ceux qui croient sont bénis comme il l'a été. Waouh ! J'ai oublié de dire, quand vous lisez Abraham, Isaac, vous voyez qu'ils ont prospéré, mais à un niveau impressionnant. Ils avaient du bétail en abondance. C'était leur manière d'être riche à l'époque. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez être fermier et puis vous retrouvez avec une grande hacienda ou je ne sais pas, au Mexique. Enfin bon, c'est... Non. Dieu a d'autres moyens de nous manifester et de déployer la prospérité dans nos vies. Mais même si aujourd'hui des circonstances te disent « mais je ne suis pas dans la bénédiction », si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, elle est là. Elle est dans ton esprit. Elle s'attache à toi. Mais ta responsabilité, c'est de la parler. Donc fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Si tu confesses que du négatif, tu n'auras que du négatif dans ta vie. Si tu confesses la parole de Dieu, tu vas voir la parole de Dieu se manifester dans ta vie. Jésus est venu pour nous ramener à cette fameuse bénédiction parlée par Dieu sur Adam, sur Noé, sur Abraham, Isaac et les autres. Si tu es en Jésus-Christ, cette bénédiction, elle est à toi. Elle est à toi. On va lire un dernier texte, Deutéronome 28. Et vous allez voir un peu les domaines qui sont concernés par cette bénédiction. Deutéronome 28, versets 1 à 7. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous me veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera de bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes. On peut être béni en ville. Oui, c'est ce que Dieu dit, il bénit ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent la campagne. Il y a de tout, hein. La bénédiction, elle est à la ville et elle est à la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Bon, les jeunes couples, là, je m'attends à ce que vous mettiez en pratique la parole de Dieu. Vous habitez en ville ou à la campagne, voilà. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Il accroîtra vos troupeaux de bœufs et de moutons et de chèvres. Bon, c'est un peu adapté aujourd'hui. N'achetez pas des moutons, des chèvres et des bœufs pour mettre en pratique la parole de Dieu, mais bon, adaptez aujourd'hui à où vous vivez et voyez comment cette bénédiction va se manifester. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Ah, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence, même si les circonstances ne sont pas bonnes. La bénédiction est avec moi. Parce qu'il y a un texte qui dit « J'ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Là où les autres disent « Je ne peux pas », toi tu dis « Je peux tout faire par Jésus qui me fortifie. » Là où les autres disent « Je réussirai pas », dis-moi « Je vais réussir ». On raconte l'histoire d'une dame juive qui était arrivée à Nice et qui était descendue de Paris pour acheter un magasin. Et le magasin qu'elle a acheté, c'était un magasin qui était en faillite. Alors les autres commerçants lui ont dit « Mais vous êtes un peu... » Pas bien, quoi, d'acheter un magasin qui marche pas. La logique humaine veut qu'on achète un magasin qui est déjà un potentiel et qui prospère. Elle a dit non, non, je vais acheter ce magasin-là. Pourquoi ? Parce qu'elle était persuadée que la bénédiction était attachée à elle et qu'elle allait prospérer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que son magasin, il a prospéré, prospéré, prospéré. Pourquoi ? Cette dame était convaincue que la bénédiction était attachée à elle. Donc, elle a vécu, elle a agi comme si elle était bénie. Et elle a vu la bénédiction se manifester. C'est une manière de penser, mes amis. C'est une manière de penser. Soit je vais penser comment le monde pense, ou soit je vais penser selon ce que Dieu me dit dans sa parole. Et Dieu me dit dans sa parole que je suis béni. Verset 7, lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Quand on est béni, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Ça veut dire que Dieu va manifester sa puissance et va démontrer à quel point il est grand, à quel point il est puissant et à quel point il veille pour que sa bénédiction s'attache à nos vies. Parlez des contrats. Parlez des contrats pour ceux qui travaillent. Parlez la bénédiction sur votre lieu de travail. Parlez la bénédiction sur vos finances. Parlez la bénédiction sur tout, sur votre santé, sur la santé de vos enfants. Parlez la bénédiction. La bénédiction. J'estime que je suis béni, vraiment. Quand je regarde et que je commence à compter les bienfaits de Dieu, comme dit un chant, hein, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je veux compter les bienfaits de Dieu et je vois combien je suis béni, combien nous sommes bénis. Là, c'est Belzébul qui s'attaque à moi, le dieu des mouches. C'est ça que ça veut dire, Belzébul. C'est le dieu des mouches. Elle est déjà morte. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit vivre. Pourquoi ? Parce que les gens autour de nous nous observent. Et vous savez, notre témoignage de vie, de la prospérité qui va s'attacher à nous, va être un témoignage qui va attirer d'autres. Et quand les gens vont dire, mais comment tu fais pour réussir, toi ? Tu veux que je te dise vraiment ? Ben alors, attends, on va prendre un café, on va s'installer. C'est Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ. Parce que la bénédiction promise à Abraham, elle m'appartient. Qu'est-ce que tu racontes ? On peut aller plus dans les détails, si tu veux. Hein. Genèse, chapitre 1, chapitre 9, chapitre... Mais c'est des occasions de témoignage. Pourquoi ? Parce que les ressources et les finances du monde doivent entrer dans le royaume de Dieu. Pour que l'évangélisation de ce pays se fasse. Et mes amis, il y a tellement de défis par FM qui est devant nous. Ça ne va pas coûter 15 euros par mois. Hein, ou 10 ou 30. C'est des sommes de... Mais il faut maintenant que les finances du monde soient détournées du monde pour venir dans les entreprises des chrétiens qui vont prospérer et qui vont faire en sorte que cette prospérité va être redéversée dans les églises locales pour que la puissance de Dieu, le nom de Jésus, soit élevée. On a vu ce DVD là, de Esperanza il y a un mois. Eh bien, ce DVD, le Seigneur veut nous dire, mais c'est possible en France. Si c'est possible au Brésil, un pays qui est soi-disant sous-développé, ou qui l'était, et quand on voit le niveau de qualité, quand on voit le niveau de perfection et d'excellence qu'ils ont atteint, ben voilà. Mais pourquoi ? Parce que les Brésiliens ont décidé de croire qu'ils étaient bénis. Qu'ils étaient bénis de la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Et tout ça parce que Jésus a été fait malédiction pour nous, pour que nous héritions de la bénédiction promise à Abraham. Repartez, restez cette semaine. Si le diable vient vous attaquer en vous disant « Mais tu vois, ça ne marche pas dans ta vie. Tu vois, vous lui répondrez « Je suis béni de la bénédiction d'Abraham en Christ. » Et je l'ai par la foi, elle est à moi. Tu vas réussir dans tes études, parce que la bénédiction d'Abraham, elle est collée à toi. N'essaie surtout pas d'enlever le sparadrap avant d'entrer dans la salle d'examen. Elle est là, la bénédiction. Dans ton entretien d'embauche, comment est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu y vas en disant, bon, on verra, puis tu sais, le monde est terrible en ce moment. Bonjour, vous allez bien ? Je suis béni. Et vous ? Bon, d'accord. Tout Tout dépend de la manière dont on aborde les choses. Mais si vous ne savez pas et que vous n'êtes pas convaincu dans votre cœur que la bénédiction, elle est collée à vous, ben vous n'y allez pas avec. Enfin, vous y allez avec, mais elle est encore enfermée. Cet appartement dont tu as besoin, cette maison dont tu as besoin, parce que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, la faveur est avec toi. La faveur est avec toi. Et là où tous les autres vont te dire non, toi, ils vont te dire oui. Ils sont bien embêtés après, mais ils l'auront dit. Quand on est arrivé à Oni, il n'y avait aucun appartement à louer sur Oni. Et Dieu nous avait appelés là. Non seulement, il n'y avait pas je raconte le contexte. Je termine par ça. Il n'y avait pas d'appartement à louer à Oni. J'étais encore étudiant, donc 0 € de salaire. C'était Yannick qui travaillait. Il n'y a pas un salaire suffisant pour payer un appartement. Vous savez, comme c'est compliqué d'avoir 3 mois de salaire. Le pompon, c'est qu'on venait d'acheter une voiture d'occasion. Et je vous passe les détails, mais on s'était retrouvé avec un découvert bancaire de moins 40 000 €. Parce qu'un transfert d'argent, 40 000 francs à l'époque. c'est la Mercedes que j'avais. $40 000 parce qu'il y avait un problème de transfert d'argent. Pendant 2 mois, comment voulez-vous louer un appartement, apporter la caution et tout le reste sans avoir un euro en poche, mais encore 40 000 francs en moins? Donc on est arrivé au début du mois d'août et un appartement à louer à la Ravinière à l'époque. Pas loin de chez eux. C'est là-bas qu'on commence. Pas un rien, mais impossible à vue humaine. Et à l'époque, je n'avais pas encore compris que la bénédiction d'Abraham était collée à moi. Et Dieu l'a fait quand même, parce qu'il est bon. Mais on a eu l'appartement. Ben vous aussi, hein, c'est la même chose. Hein. C'est la même histoire. Mais on l'a eu. Aucune garantie. Rien. Ben oui, bien sûr. On va signer à l'agence. C'est bien. C'est fait. Pourquoi ? Parce que j'ai la faveur. J'ai la faveur. Je suis béni. Tous les matins, lève-toi, regarde-toi dans ton miroir, et plutôt que de te faire peur, tu fais un grand sourire, et tu dis, je suis béni. J'ai la faveur aujourd'hui. Je prospère à tous égards. Il n'y aura plus besoin de maquillage. Mais voilà. Voilà comment je fonctionne. Et ça change, mes amis. Vous allez voir les circonstances. Ceux qui sont dans les affaires, vous allez voir des affaires rentrer que tous vos collègues n'auront pas. Pourquoi ? Parce que je suis béni. Et la bénédiction d'Abraham s'attache à moi. Cet accident que tu aurais dû avoir, tu ne l'as pas eu parce que Dieu était là. Parce que la bénédiction est là. Bénédiction, beraka, en hébreu. Et les pieds noirs, ils disent la baraka. T'as la baraka, toi. Ouais, tu penses pas si bien dire. Hein. C'est la beraka, pas la baraka. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Mais Dieu aime ça. Je suis béni. Je suis béni. Partout, tout le temps, en toute occasion, je suis béni, 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 je suis béni. Chantez-le. Et vous allez voir comment votre environnement va changer. Vous serez plus déprimé. Parce que je suis béni. Je suis béni à Oni. Je suis béni à Sergi. Alors après les autres, je suis béni à Charlie. À Uci aussi. Je suis béni. Grâce à Thierry aussi, voilà. Parce que grâce à Jésus. Et vraiment, j'aimerais qu'on le célèbre ce matin. Et je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te remercier, notre Seigneur, parce que c'est grâce à ta mort, c'est grâce à ta résurrection, c'est grâce à tout ce que tu as enduré que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la justification. Il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Christ, qui marchons non selon la vue, mais par la foi. Et Père, ta parole nous dit qu'en Jésus, nous avons la bénédiction qui reposait sur Abraham. Et je veux, Père, au nom de Jésus, avec mes frères et sœurs ici, dire et confesser que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Elle repose sur nous. Elle est attachée à nous parce que tu es notre Seigneur. Tu es notre Roi. Tu as payé le prix pour que nous soyons bénis. Bénis pour bénir, Seigneur. Bénis pour faire bénéficier d'autres de ces bénédictions surabondantes que tu as déversées sur nous. Amen. Et il y a une traduction qui dit « Vous verrez toutes les bénédictions qui vous atteindront lorsque vous... » etc. Et si vous... Moi, c'est une expression qui est pas mal. Parce que ça fait penser... Vous ne pouvez pas éviter la bénédiction. Vous savez, c'est une sorte des missiles à tête chercheuse. Hein. Il y a des missiles de bénédiction qui vous cherchent à vous atteindre. Et puis, vous ne pouvez pas leur échapper. Comme ça. C'est un peu l'imagination, mais on a le droit d'imaginer aussi. Et ça nous aide à se dire, mais je suis béni. Donc maintenant, on n'est pas dans l'autosuggestion, on est dans l'affirmation de la parole de Dieu. Amen.